la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Hélène Audifrin, bonjour.
Bonjour.
Et merci de prendre le temps de me recevoir. C'est comme un anniversaire, en fait. Il y a un an, vous arriviez au Musée d'art contemporain de Nîmes.
Un an quasiment tout pile. Un joli anniversaire dans ce beau musée.
Et vous n'avez pas chômé, j'ai l'impression.
C'était une espèce de grande traversée. Cette année est passée extrêmement vite, oui, avec de nombreux projets à lancer, à poursuivre.
Et puis s'habituer au lieu, parce que même si vous le connaissiez, c'est autre chose d'être directrice et conservatrice, de faire connaissance avec le lieu, l'équipe.
Tout à fait.
Et vous avez, à mon avis, tissé beaucoup de liens. Je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux avec l'ESBAN, avec vous. Vous tissez des liens nouveaux aussi, j'ai l'impression. Hein.
Oui, donc effectivement, quand on arrive dans une institution comme celle de Carl Reidard, c'est d'abord se familiariser avec cet outil qui est absolument magnifique. Cette architecture de Norman Foster, qui est quand même sublime dans son dialogue avec la Maison Carrée, ces espaces dédiés à la collection, aux expositions temporaires. Et aujourd'hui, Carré d'Art Musée, c'est un établissement avec un rayonnement international. Mais ce qui me tenait à cœur en arrivant, c'était de renouer des liens avec le territoire. Et c'est passé très vite par des relations avec les institutions locales. Donc, évidemment, naturellement, la bibliothèque, puisque Carré d'Art, c'est à la fois un musée et une bibliothèque. Et l'école supérieure d'art qui forme de futurs artistes. Donc pour moi, le lien était tout naturel. Donc on a lancé quasiment dès mon arrivée un programme de conférences qui s'appelle Histoire d'art, où tous les premiers mardis du mois, nous invitons une personnalité à venir nous parler d'un mouvement, d'une œuvre ou d'un artiste présent dans les collections.
Il y a eu du public.
Auditorium est quasiment plein à chaque édition de Histoire d'art. C'est ouvert au grand public et c'est gratuit. Et puis le deuxième projet, très beau projet, nous avons lancé un festival qui s'appelle Publicare. Publicare, ça veut dire publié en latin. Donc c'est un jeu évidemment avec la ville romaine dans laquelle nous nous situons, mais aussi avec le nom de ce bâtiment, le Carré d'Art. Et pour moi, c'était trouver un terrain de jeu commun avec la bibliothèque, l'école supérieure d'art, autour du livre d'artiste, de l'édition, de l'estampe, de l'image de la micro-édition. Et donc, on a invité en décembre dernier 25 éditeurs durant 3 jours. Et on va lancer une nouvelle édition en décembre prochain, les 11 et 12 décembre, je peux déjà l'annoncer. La nouvelle édition de Publicare, qui a eu déjà du succès dès sa première édition, avec des étudiants, des diplômés, des éditeurs qui ont organisé
très dynamique.
C'était très vivant. L'ensemble du hall de l'étape du bâtiment a été investi et c'était très vivant. Et donc, on va évidemment rejouer ça en décembre prochain.
Alors, je crois justement, là, on est dans votre bureau, on surplombe le hall, il y a deux œuvres de Turcic et Mille. Vous voulez vraiment, et puis avant, il y a eu les grandes
voiles de Viviane Sutter. Ouais.
Ouais. Donc, faire en sorte que les gens qui entrent dans le Carré d'Art se disent « Ah, il y a un musée !» C'est pas toujours clair dans la tête des gens. Donc,
oui, pour moi, connecter avec le territoire, ça se construit à différents endroits, donc en faisant des projets en partenariat, mais aussi tout simplement en faisant en sorte que le musée sorte un peu de ses murs et vienne investir aussi dès le hall d'entrée pour que les lecteurs de la bibliothèque puissent découvrir des œuvres et aient envie d'en voir davantage. Voilà, c'est comme une invitation à venir visiter le musée. Donc effectivement, j'ai ce désir de faire en sorte que l'art soit présent dans le bâtiment, en dehors des murs du musée.
Mais il y avait eu l'édition de la Contemporaine où il y avait eu tous les musées de Nîmes qui avaient été associés. Donc, c'est un travail à long terme, mais peu à peu, ça porte ses fruits. Donc,
Oui, tout à fait. Ben, là, d'ailleurs, nous allons inaugurer le 3 juillet prochain, vendredi 3 juillet, nous allons inaugurer une exposition dans le cadre du Grand Arles Express, dans le cadre des rencontres de la photo d'Arles, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts.
Vous êtes entré tout de suite dans le vif du sujet, mais rappelez peut-être à nos auditeurs un peu votre cheminement avant d'arriver à Foucaré d'Art. Vous aviez fait donc candidature, vous avez été prise, mais avant vous avez fait plein d'autres choses.
Oui, je crois que je suis quelqu'un qui reste quand même, qui installe les choses. Et donc j'ai pendant 12 années dirigé le musée régional d'art contemporain, le MRAC à Sérignan dans l'Hérault. Où j'ai eu la chance de développer le projet, puisque quand je suis arrivée, c'était un petit espace d'art contemporain. Aujourd'hui, c'est un grand musée avec une collection, un grand espace. Ensuite, j'ai eu envie de travailler davantage sur les politiques culturelles et je suis allée travailler à la Direction régionale des affaires culturelles à Aix-en-Provence. Donc pour le ministère de la Culture et l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où j'ai pu accompagner tous les acteurs de l'art contemporain sur le territoire. Ça a été passionnant et à nouveau, ça a été pendant une longue période puisque j'y ai passé 11 années.
En fait, c'est des cycles d'une dizaine d'années, j'ai l'impression.
Oui, je crois que j'ai besoin vraiment d'avoir la sensation de développer vraiment les choses. En région PACA, c'était absolument passionnant parce qu'il y a énormément d'artistes installés dans le Grand Sud. Il y a des lieux de diffusion absolument magnifiques, des fondations, des centres d'art, un FRAC à Marseille, etc. Donc ça a été passionnant, mais j'ai eu envie de revenir à mes premières amours, je dirais, c'est-à-dire travailler avec les artistes vivants, travailler avec les œuvres. Un musée, c'est une collection, et ça, c'est vraiment un pur bonheur de travailler avec la collection de Carré d'Art, qui est vraiment magnifique.
C'est aujourd'hui que j'ai côtoyé pendant une dizaine d'années, disait justement cette collection, une collection publique. Hein, il insistait sans arrêt sur cela. Hein, c'est vraiment important. Oui, oui. Et que vous continuez, je pense, aussi une politique d'achat
Tout à fait. Donc, l'émission première d'un musée, le Carré d'Art, c'est un musée de France. Et dans ses missions, la mission première, c'est de conserver, d'enrichir et de valoriser une collection publique, puisque les œuvres, une fois qu'elles rentrent dans les collections, elles deviennent imprescriptibles et inaliénables. Donc, elles sont pour toujours le patrimoine de tous et toutes. Et j'ai le désir de davantage la rendre vivante, cette collection. C'est-à-dire que tous les ans, une fois par an, on va faire un nouvel accrochage, une exposition de collection. Mmh. Et donc là, on va inaugurer...
roulement, en fait, parce que tout n'est pas montré.
Évidemment, la collection de Carré d'Art, c'est environ 700 œuvres. Mmh. Donc on n'a pas la possibilité montrer 700 œuvres. Donc une grande partie sont en réserve. Mais nos collections sont aussi très plébiscitées puisque on nous demande souvent des prêts. Nos œuvres voyagent en France et en Europe très régulièrement. On a quelques chefs-d'œuvre qui sont très demandés. Nous avons encore prêté cet hiver des œuvres de Gerhard Richter à la grande exposition à la Fondation Louis Vuitton. On prête bientôt des œuvres de Sophie Calle qui vont partir en Suisse. Donc les œuvres sont souvent en mouvement. Donc c'est une façon de les rendre publiques. Mais il y a surtout nos espaces dédiés à la collection. Et donc tous les ans, il y a ce désir de faire une exposition de collection. Et donc là, on va rendre hommage on va mettre en valeur la donation d'Alain Clément, qui est un artiste installé à Nîmes.
Je l'avais rencontré l'année où il avait fait l'affiche du Festival Flamenco.
Et donc Alain Clément a fait une donation importante à Carré d'Art. Alain Clément qui a aussi été directeur de l'École des Beaux-Arts de Nîmes, donc c'est une personnalité qui compte dans cette ville. Et donc on va consacrer plusieurs salles du musée à son travail. Ça va nous permettre d'avoir vraiment une traversée dans toute sa création, puisqu'on va montrer des œuvres depuis les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui.
Il a réalisé une reconnaissance pour lui.
Oui, il a déjà
il en a pas besoin peut-être.
Oui, il a déjà des œuvres dans de grands musées, mais je crois que sa ville lui rend hommage, c'est important pour lui. Et on va montrer notamment des œuvres qu'il a réalisées pour la Halle des Sports à Nîmes. Donc c'est aussi un clin d'œil à ses réalisations qu'il fait pour la ville et pour les architectures.
Oui, vous parliez de territoire, c'est ça en fait. Il est visible. Peut-être que des personnes ne connaissaient pas Alain Clément, puis avec cette...
qui vont rencontrer son travail. Et puis à côté de cette de ce focus sur Alain Clément, on va aussi faire un nouvel accrochage autour de la fabrication de la peinture et en montrant d'autres artistes qui ont été proches d'Alain Clément, par exemple des œuvres de Gerd Alkema qui vit aussi à Nîmes. Et dont les œuvres n'étaient jamais sorties des réserves. Nous allons montrer des œuvres de Jean Azémar, qui avait formé aussi un groupe avec Alain Clément, qui n'était jamais sorti des réserves. Donc c'est une façon aussi de...
Voilà, vous êtes plongé dans tout le catalogue, dans tout...
c'est ça. On découvre un bâtiment, on découvre une collection. Donc c'est la première année était très intense.
Alors surtout que vous êtes arrivé en juin l'an passé et vous avez dû tout de suite préparer les expositions, puisque Jean-Marc Brévieux avait arrêté en novembre et vous êtes arrêté en juin. Vous êtes arrivé en juin.
Oui, tout à fait.
Donc deux expositions en un an, c'est pas mal.
Oui, c'était vraiment.
Alors là, on parlera après de Salter Cirque et Mille là, qu'on. Mais avant, il y a eu donc Vivienne Sutter.
Oui, donc dès mon arrivée, il a fallu travailler un projet d'exposition pour prendre la suite d'une programmation qui s'arrêtait à l'automne. Et donc, on a réalisé ces deux expos, une consacrée au photographe colombien Felipe Romero Beltrame autour d'un projet sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et Vivienne Sutter avec plus de 400 peintures accrochées dans l'espace, du plafond jusqu'au sol. C'était extrêmement généreux.
Dans le hall, selon les lumières du jour, le coucher du soleil. C'était vraiment très.
Tout à fait.
Très parlant. Et quand vous avez choisi la musique, Einstein und the Beach, vous m'avez dit. Cette musique, elle est répétitive et en même temps, elle est très proche de la peinture. Donc, vous voyez, Vivienne Sutter, c'était un peu ça, en fait. Hein.
Oui, c'est comme un geste qui se répète au quotidien et avec de petits déplacements. C'est jamais la même chose. C'est toujours une surprise qui se laisse surprendre par la peinture. Pour moi, c'est aussi la même chose avec Ida Turczyk et Wilfried Mill que nous exposons actuellement. Mais voilà, c'est comment le peintre qui revient toujours à l'atelier. On dit que la peinture se nourrit d'elle-même. Donc, c'est un geste infini, c'est-à-dire un tableau en amène un autre, une peinture en amène une autre. Et c'est voilà, c'est
un peu cette... musique répétitive, c'est cela. Et puis, je pense aussi, on en reparlera peut-être après, puisque le centre de documentation est très actif. Là, c'était Sylvain Fraisse, que vous connaissez de Sérignan. Et lui aussi a beaucoup parlé de la musique. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien étroit entre musique et peinture. Donc, on écoute un petit extrait, bien évidemment, d'Einstein on the Beach. 1. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous continuons cette agréable conversation avec Hélène Audifin, donc, qui souhaite l'anniversaire de son arrivée au Musée d'art contemporain du Carré d'art. Et on va parler de l'exposition actuelle, Turcic et Mille. J'ai eu la chance de suivre la visite de presse et je les trouve très, très sympathiques. Timides, mais très sympathiques. Et l'exposition est assez remarquable. Alors là, c'est votre choix. Vous les connaissiez déjà, Turcic et Mille? Pourquoi vous les avez choisis?
Je les ai choisis d'abord parce que je pense qu'ils font partie des meilleurs peintres de leur génération. Turcic et Mille, ils sont tous les deux nés en 74, ils ont une petite cinquantaine d'années, ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts de Dijon, elle originaire de l'ancienne Yougoslavie, lui du nord de la France, et ils ont fini par s'installer dans le sud de la France, à Mazamet, dans le Tarn, et où ils travaillent dans une ancienne usine des peintures de grand format, donc ils ont un espace important. Donc je les ai choisis d'abord parce que ce sont de très grands artistes, à mon sens, et parce que je les connais aussi depuis fort longtemps et que je suis leur travail, et j'avais déjà organisé une exposition de leur travail il y a 18 ans au musée de Sérignan. Et pour moi, c'est important aussi cette fidélité.
Une continuité.
C'est au-delà de l'amitié, évidemment, il y a l'amitié, mais il y a aussi la qualité du travail avant tout. Et puis, pour moi, c'est important de suivre une carrière et de voir l'évolution de leur travail, qui est absolument incroyable. Ils se réinventent sans cesse.
Le sous-titre, c'est « Dissonance à géométrie variable au pluriel ». Donc, c'est tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous les connaissez plus longtemps. Quand vous avez fait l'accrochage, c'est bien sûr avec eux, bien évidemment. Mais lors de la visite, ils avaient dit qu'ils avaient dû peindre des grands formats. Ils n'en avaient pas pour salle. Donc, comment vous avez travaillé tous les trois pour qu'ils créent dans cette immense salle? C'est 6 tableaux, je crois.
8 œuvres inédites, mais pas que. Hein. En fait, l'exposition, elle est remplie d'œuvres nouvelles, évidemment d'œuvres plus anciennes, plus historiques, mais ils ont produit beaucoup. Les 6 derniers mois avant l'exposition, ils ont travaillé comme des acharnés.
Ils savaient que ça serait accroché ou non?
Alors, souvent, les artistes, d'abord, visitent les espaces, on discute ensemble de la manière dont les choses vont apparaître. Évidemment, il y a toujours des changements une fois qu'on a les œuvres qui sont arrivées, mais ils ont réalisé une maquette de l'ensemble des espaces. Et ensemble, on a composé, un peu comme un petit jeu de construction dans leur atelier, on a composé l'exposition. En créant un parcours qui propose une traversée de leur travail. Il y a une première salle qu'on a appelée la salle du bonheur. Ensuite, il y a la salle de l'accident, il y a la salle des La Vie Rose. Et donc là, ce sont 8 immenses peintures recouvertes dans La Vie Rose et qu'ils ont réalisées spécialement pour le musée. Et ces grandes hauteurs, donc ce sont des toiles à plus de presque 4 mètres de hauteur. Et qu'ils reviennent sur une imagerie très vaste, puisque Ida et Wilfried, ils vont puiser à la fois sur Internet, c'est des enfants d'Internet, ils ont vu l'apparition d'Internet, où aujourd'hui on a une masse d'images incroyables, et en même temps ils s'inscrivent aussi dans une grande tradition de la peinture, donc ils vont à la fois travailler des natures mortes, des paysages, des portraits en pied, des portraits... Et donc c'est aussi des peintres qui s'inscrivent dans une grande histoire de la peinture.
Oui, il y a vraiment, moi j'avais été subjuguée par je ne sais plus le titre, mais c'est comme un troubadour qui est...
C'est l'amour tout simplement, qui dépose un cœur dans une marguerite. Et donc c'est une déclaration d'amour à une marguerite.
On parlait peinture, on parlait musique. Moi ça m'a fait beaucoup penser au cinéma avec ses films, le nom m'échappe,
mais il y a de nombreuses références au cinéma aussi dans leur travail. Ils reprennent clairement des scènes de films. Par exemple, ils avaient réalisé une série d'incendies, il y en a plusieurs, des peintures d'incendies dans l'exposition. Ils avaient réalisé des scènes extraites de films de Tarkovsky, par oui. exemple. Mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans leur travail, la relation au cinéma.
Et la première salle, c'est moi, j'ai plus pensé à la publicité qu'au cinéma. J'avais l'impression que c'était des publicités pour des cigarettes ou pour des...
C'est ce que je vous disais, l'iconographie chez eux, elle est multiple. Donc, ouais. dans la première salle, cette salle du bonheur, c'est un peu une salle qui vient interroger ce que c'est le... d'une certaine manière, l'image du bien-vivre. Donc, effectivement, mmh. ils ont repris des images qui faisaient la publicité dans les années 50 pour les cigarettes. À l'époque, on disait que fumer, c'était très bien. Et ces images sont un peu caricaturales. Mmh. Donc, c'est une façon aussi de dénoncer cette façon de faire de la publicité en utilisant une imagerie d'un couple un peu séduisante. Mmh. À la fois un peu ridicule aussi. Donc, il y a beaucoup d'humour dans le mmh. travail d'Ida et Wilfried. Dès l'entrée...
Je pensais beaucoup à Marilyn Monroe, c'est cette époque, en fait, où il y avait vraiment des clichés de la femme, du bonheur. Mmh, c'est très intéressant. Et on voit l'image globale, et puis après, on rentre dans le détail. Et c'est ça qui est passionnant, mmh. je trouve. Hein. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment ils travaillent, mais s'ils travaillent sur la globalité d'abord et après ils rajoutent les détails, ou si c'est un tout, en fait, ça se fait...
Chaque œuvre se construit différemment. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'il faut une peinture, ils sont deux peintres. Ouais. Donc, c'est un seul... Je dirais non, ils disent qu'ils sont un peintre et ils sont deux personnes. Donc, chaque tableau, c'est une conversation.
Oui.
Parfois, ça peut être une dispute aussi, mais en tous les cas, le tableau n'existe que s'ils finissent par se mettre d'accord. Et donc, parfois, l'un va rajouter une figure sur le travail de l'autre et inversement. Donc, il y a de la pensée globale.
On sent cette belle complicité, hein, je veux dire, entre eux. Là, c'est...
Oui, mais cette exposition s'appelle Dissonance à géométrie variable parce ouais. qu'il y a quand même cette conversation entre deux personnes et cette façon. Pour moi, c'est la raison pour laquelle ce travail est très riche, c'est que justement, il y a deux personnes qui réfléchissent à une même chose, qui parfois sont d'accord, pas d'accord, et voilà, ça ajoute.
Et ça évolue.
Ouais.
Et alors, je pense bien sûr au Bichon, qui est répétitif, qui revient dans beaucoup de tableaux, qui est dès l'entrée, hein, ce gros Bichon... Wilfried nous a dit qu'il a construit lui-même le support, donc
il fabrique tout.
Il fabrique tout, le grand panneau. Alors pourquoi ce Bichon ? Et vous avez fait aussi des petites, des magnettes et des petites broches Bichon.
Ouais, ouais. Ben chez eux, il parle d'une peinture sentimentale, c'est-à-dire le petit chien. Le chien dans la peinture, c'est une grande histoire, hein, depuis Goya, depuis Velázquez, depuis. Voilà, il y a toujours une présence de chiens dans la peinture.
Alors, les rois avaient toujours des petits chiens.
Voilà. Et donc, chez eux, c'est le choix du Bichon. Je crois que c'est le chien un peu mièvre. Malgré tout, on peut dire le chien...
Avec son petit nœud dans les cheveux, voilà. Dans les poils. Ouais.
Mais, et donc, il y a cette idée-là d'une peinture un peu comique aussi, parce que parfois, c'est comment... tordre un peu la peinture, c'est-à-dire parler d'un sujet très sérieux, mais introduire une figure qui l'est moins. Donc, il y a beaucoup de jeux d'aller-retour comme ça, quand je disais qu'il y a beaucoup d'humour.
Oui, je pense à la... Enfin, sans dévoiler, les femmes qui ont des sacs sur la tête, moi, je pense d'abord au Ku Klux Klan. Hein. Je veux dire, j'ai été très étonnée de la signification de cette image avec le petit canard au milieu. Donc ça, c'est pour inciter nos auditeurs à venir voir les tableaux. Et elle dure jusqu'à quand, cette exposition ? Elle dure
jusqu'à début octobre.
Début octobre.
Donc, il ne faut pas attendre.
Mais non, il faut revenir. Moi, je reviens parce que je regarde tous les petits détails. Mmh. Et je suppose que maintenant, ça va être plus calme, je ne sais pas. Mais vous avez déjà d'autres projets d'exposition. Alors, la prochaine, c'est
alors tabou Alors, le prochain vernissage, donc le 3 juillet, vendredi 3 juillet, où nous organisons ces expositions en lien avec le Musée des Beaux-Arts. Donc, nous allons inaugurer l'exposition d'un jeune photographe, Sébastien Arrigui, qui va être présenté dans l'entrée de Carré d'Art sur le mur Foster. Et une exposition à Alix Boileau au Musée des Beaux-Arts, voilà, les deux dans le cadre de la saison de l'eau de la ville de Nîmes. Nous allons inaugurer aussi le nouveau parcours des collections sur l'ensemble du deuxième étage. Et puis, l'automne prochain, donc au mois de novembre, ce sera une exposition consacrée à l'artiste française Marie-Ange Guilleminot. Mmh. Marie-Ange Guilleminot, qui a été une artiste, qui est une artiste très importante, une des premières femmes à faire à la fois de la performance, à utiliser le textile dans son travail. Aujourd'hui, ce sont des pratiques vraiment courantes dans l'art contemporain, mais elle, ça a été une pionnière sur ses relations aussi au livre. Elle a depuis 20 ans une boîte de bouquinistes au bord de la Seine dans laquelle elle invite d'autres artistes à montrer leurs réalisations. Voilà, c'est un travail assez généreux et relationnel. Donc, il va y avoir des œuvres qui seront activées tout au long de l'exposition et avec des publics très divers.
Écoutez, bon anniversaire à vous d'arriver dans ce musée d'art contemporain. Beaucoup de projets et vous êtes ravie d'avoir été nommée ici.
Oui, c'est très enthousiasmant.
Et ben merci à vous et à une prochaine fois, à la prochaine exposition.
Merci beaucoup.